Le mercredi balado diffusion chez Simplement Plein Air, on y retrouve de tout pour tous, sauf la chasse, sauf la pêche, car c'est le lundi pour la pêche et le vendredi pour la chasse. Simplement Plein Air, de la balado diffusion à son meilleur. Bienvenue à l'expérience audio Simplement Plein Air. Cette expérience vous est rendue possible grâce à la participation des partenaires suivants.
C'est le temps de la chasse aux petits gibiers et aux oiseaux migrateurs. Vous rappelez-vous, tout jeune, nous partions avec le père à l'affût d'une perdrix ou encore d'un lièvre. Temps frisquet, pas très bien habillé, mais on chassait avec les grands. Aujourd'hui, c'est moi qui y vais avec ma famille. Mais cette fois-ci, ils sont confortables et bien habillés. Car peu importe la chasse, ça commence avec Pro Nature. Bon, v'là le souper! Pro Nature, le meilleur endroit pour les chasseurs.
Les leaders pour les produits de saline, urine, leurre et autres accessoires, les excellents produits Buck Hunter. Venez visiter notre tout nouveau site au www.buck-hunter.ca. Vous verrez les résultats à utiliser nos produits.
On s'imagine pas qu'il y a autant de familles qui mangent pas à leur faim au Québec. Cette année, j'ai décidé de donner de la viande de gibier pour venir en aide à des familles de ma région. C'est pas compliqué. Je dis à mon boucher la quantité que je veux donner et un organisme passe pour aller distribuer la viande aux familles dans le besoin. Chasseurs, soyez donc généreux.
Pour transporter votre arme de façon sécuritaire, librement et parfaitement ajustée pour aller par-dessus vos vêtements de chasse, La Courroie Élite. www.cgelite.ca ou info@cgelite.ca.
Au chalet comme à la maison, verrouille ton arme. En cas de doute sur la façon d'entreposer ou de transporter ton arme, opte toujours pour l'option la plus sécuritaire. En collaboration avec l'Association québécoise de prévention du suicide, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs rappelle aux propriétaires d'armes à feu qu'une arme bien verrouillée peut éviter des drames.
Tu trouveras tous les règlements présentés de façon visuelle et simple sur sécurité-arme-à-feu.com.
Verrouille ton arme.
Que ce soit pour vos animaux de compagnie ou vos animaux de ferme, la compétence porte un nom. Monsieur Bouffe, 25 Avenue Chaudière à Rouyn-Noranda, au 819-797-2564, point à la ligne.
Simplement plein air, c'est de la balado. Simplement plein air, c'est de la radio. Et maintenant, simplement plein air, c'est de la vidéo. Et oui, profitez-en pour visiter notre canal YouTube Simplement plein air et abonnez-vous. Après tout, Simplement plein air, c'est pour vous. Et voilà, nous sommes de retour à l'émission Simplement plein air. Et avec moi, pour parler de la vastitude du Grand Nord, j'ai M. Sylvain Paquin. Salut, Sylvain.
Salut, vastitude du Sud.
Ah, il faut vastiter un petit peu. Il faut avoir un peu de plaisir dans la vie. Je sais pas ce que j'ai dit, mais elle l'a dit. Mais écoute, Sylvain, de ce temps-là, toi, ça bouge même pas pour rire, parce que là, t'as toutes sortes d'émissions qui sortent. T'es à la télévision, t'es en France, partout en Europe. Et puis là, ben, il y a l'autre, là, les chemins sacrés, c'est bien ça?
Oui, ouais, en plein ça, les chemins sacrés qui vont sortir en 2021. Oui, 2021, j'ai eu le courriel officiel hier, les chemins sacrés qui va jouer, c'est en 90 minutes. Je ne suis pas seul dans ça. Ça va être diffusé sur Arte et il va y avoir une grosse campagne, semblement, ça semble être mondial là, pour justement... Moi, c'est l'épisode de la solitude avec le philosophe Frédéric Lenoir. Ça va être vraiment, 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 vraiment le fun. En marge du monde que tout le monde a vu dernièrement, entre deux mondes. J'ai passé en Suisse, à la radio suisse dernièrement. Pénélope, je te dirais, vague d'amour totale, c'est ben vraiment un peu la folie. Là.
Oui, puis il y a une chose que tu m'as dit qui m'a un peu surpris. Je pensais pas, là. Tu les écoutes pas nécessairement. Les émissions avant qu'ils paraissent, même quand une fois paru.
Non, je les écoute pas avant qu'ils sortent. Puis habituellement, je vais les écouter après que la vague soit passée. Parce que, tu sais, moi, ce qui me motive le plus, c'est de participer, l'enregistrer, le préparer. Je le vis. Donc, quand il y a le montage, j'ai pas de contrôle là-dessus. Puis, quand tu l'as vécu, ben, pour moi, c'est ma récompense. Fait que de me voir à l'écran, j'ai rien contre. Ça me prend toujours un peu de temps parce que j'essaie de laisser la vague passer. Parce que, tu sais, j'ai refusé tellement de tournages au fil des années parce que les gens voulaient créer des scénarios, voulaient que je sois une autre personne, voulaient ci, voulaient ça, puis moi, ça m'intéresse pas. Quand c'est des émissions comme ça, que c'est mon quotidien, ma vie, ma manière d'être, ben un coup que c'est dans la boîte, je l'ai vécu. Fait que, tu sais, de le revoir, c'est encore au frais à ma mémoire. Là.
Ouais,
moi,
c'est
je veux
ça.
Pas être une vedette. Je veux pas que le monde m'aime sur Facebook ou sur tous les réseaux sociaux juste parce que je joue une game. J'en joue pas de game, c'est ma vie.
Ouais,
parce que
c'est
quand
ça.
Les gens viennent me voir, prennent une semaine avec moi ou quelques jours, ben ce qu'ils vont voir, ce qu'ils ont vu, puis ce qu'ils vont voir ici quand ils vont venir avec moi dans le bois, ben ça va être la réalité. Ça sera pas déformé. Ça va être mon quotidien.
Ça va être le même gars qui va transpercer l'écran, qui va que vous allez rencontrer justement. Donc il y aura jamais de tourniquet ni de barrière là au bout du chemin.
Non, je me verrais mal d'arriver dire aux gens prenez un ticket à 4,95 puis en plein milieu de l'avant-midi dire si vous voulez qu'on continue un autre petit 4,95. Côté commercial, je me verrais pas me promener des oreilles de Mickey Mouse dans le bois puis dire hey regardez c'est ci, regardez c'est ça Disneyland là, c'est dans le sud, pas dans le nord.
Non, exactement. Et puis justement pour revenir au nord, ben là ça commence à bouger les caribous.
Oui, caribous officiellement arrivé depuis la semaine dernière à Chicoutimi, dans le village, un peu partout alentour de Chicoutimi. Hier, on était faire une virée à Longpoint, vu quelques caribous, vu des traces, à plus savoir quoi faire. On était jusqu'au bout. On était se mettre les mains dans la baie James. À marée basse, écoute, la baie était déchaînée, c'était gris, c'était venteux. Au retour, des traces partout encore. Hier, c'était vraiment des fantômes, malgré qu'on en a vu deux. Mais c'était vraiment des fantômes. Après, on était faire nos emplettes à Chicoutimi. Puis à Chicoutimi, tu vois, il neigeait. On est revenu dans la tempête. Aujourd'hui encore, il annonce un 5 cm. Notre neige a baissé parce que, là, quoi, 8 jours, on a eu une nuit de déluge total. La journée de verglas, ça s'est fini en déluge, donc on a perdu la moitié de notre neige. Mais, par contre, ça l'a fait un fond, ce qui est correct aussi, là. Mm-hmm. Fait qu'on est parti, les perdrix blanches sont partout, les gros oiseaux de proie, ils ont pratiquement fini de descendre du sud. Les loups, des traces au bout, partout. C'est le paradis qui commence.
Oui, hein. Puis, essaie de nous situer un peu. Quand tu dis Longue-Pointe, quand tu dis Chicoutimi, c'est pas dans ta cour arrière, là, nécessairement.
Non, non. Chicoutimi, c'est au nord-ouest du Camp des Pins. C'est à 115 kilomètres au nord-ouest. C'est vraiment la communauté à l'embouchure de la rivière La Grande et de la baie James. Longue-Pointe, si les gens regardent sur Google, font centrale LG1. On traverse, on prend la route qui nous amène côté nord de la rivière. C'est pratiquement à la ligne de la taïga et de la toundra. Mmh. C'est une baie où que les cris l'été prennent leurs gros bateaux et montent sur leurs différents camps jusqu'au 55e parallèle. Et l'hiver, ce qu'ils font, ben c'est en motoneige traîneau pour emmener les gens justement dans leur chalet pour soit tout l'hiver. Puis ben à partir de là, tu as des réseaux de sentiers qui vont un peu partout. Là.
Oh là là, donc ça c'est situé aussi à quoi, une centaine de kilomètres?
Ouais, une centaine de kilomètres. Longue-Pointe, je te dirais un bon 130-140. Là.
Donc le village, naturellement, le plus proche serait Radisson, qui est à une cinquantaine de kilomètres, 40 kilomètres.
Ouais, 40 kilomètres au nord-est. Et Chicoutimi, la communauté au nord-ouest à 100, mettons à peu près 115 km.
Donc, si on parle de l'aéroport de La Grande, oui. Là, c'est pas un village, là.
Non, c'est l'aéroport, la Grande Rivière, est à 9 km sur le bord de la route. Mm-hmm. Et après ça, à 32 km approximatifs, tu as la communauté non autochtone de Radisson, qui est l'ancien campement d'Hydro-Québec quand ils ont bâti les centrales hydroélectriques LG2, LG2A.
Ah, OK.
Donc, c'est ça. C'est le seul village. C'est le village le village le plus au nord au niveau non autochtone.
Ah, OK. Et puis, si on prend, bon, la grande, là, finalement, l'aéroport là, de la Grande Rivière, qui est communément appelé ou connu sous l'aéroport de la Grande, d'un village comme tel, il est quand même situé à une quarantaine de kilomètres de tout.
Oui, ben oui, c'est pas mal, oui.
C'est en plein centre, là. Ils ont dompé ça là dans
le centre. En plein centre. Non, parce que en plein centre, non, parce qu'il est sur le bord de la route de la baie James.
Ouais.
Tu vois, ouais. Moi, je suis au 581. 9 km plus au nord, c'est l'aéroport de la Grande-Rivière. Après ça, tu es au kilomètre 600. Radisson est au 624. Kilomètre 600, tu as le chemin de Chichitatibi qui est à peu près 95-96 km.
Ah, OK.
Qui s'en va directement vers. Mais Chichitatibi, ils ont leur propre aéroport. Là.
Ah, OK. En plus.
Oh oui, absolument. Comme tous les avions d'Air Québec, ils vont faire toutes les communautés, ils vont à Chichitatibi. Chichitatibi, il y a beaucoup de comment je pourrais dire de tests médicaux, des trucs comme ça, la dialyse. Les gens des différentes communautés sont amenés à Chichitatibi pour justement la dialyse, les soins médicaux et blablabla. Bla, bla.
Ah, okay.
Mais non, il y a tout. Ah, écoute, c'est
tout un réseau. Réseau oui, absolument. Oh,
absolument.
Hey, Sylvain, il va falloir qu'on continue la conversation la semaine prochaine. C'est tout le temps qu'on a. Ça va trop vite. Je te dis, quand on jase de choses intéressantes, le temps file. Mais si les gens, parce qu'on sait que tu es photographe aussi, et puis que, écoutez, tu guides aussi au niveau photographie animalière et puis interprétation de la nature et tout, si on veut avoir de l'information là-dessus, les gens peuvent s'adresser à toi de quelle façon, Sylvain?
Manière la plus simple, www.animalparquin.info. Juste une petite recherche avec le hashtag AnimalParquin. Hein. Vous allez me trouver Instagram. Gênez-vous pas, vous avez des questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et si vous planifiez pour l'année prochaine, c'est le temps. 2021, ça va être un rendez-vous. J'ai déjà très hâte.
Et oui, on a tous hâte, là. Disons que, écoute, nous, on se rejoint la semaine prochaine, Sylvain, on jase. Et puis, profite de cette belle semaine, belle température. Tiens-toi au chaud. Et puis nous, on se retrouve de l'autre côté de la pause. Demeurez là, bougez pas. Il y a des belles choses qui s'en viennent. Salut, Sylvain.
Salut, Guy.
Simplement plein air, c'est de la balado. Simplement plein air, c'est de la radio. Et maintenant, simplement plein air, c'est de la vidéo. Et oui, profitez-en pour visiter notre canal YouTube Simplement plein air et abonnez-vous. Après tout, Simplement plein air, c'est pour vous.
Salut Guy et bonjour à tous les auditeurs de Simplement plein air. Mon nom est Jonathan Goyer du podcast Le VTT Show. Écoutez, cette semaine, on va parler dans la chronique quad, on va parler de confortabilité. On va y aller en deux volets. On va y aller avec le côté des pneus parce que c'est une question qui nous vient très souvent dans notre émission. Quelle pression que je dois mettre dans les pneus? Et on va parler aussi de côté casque parce que comme c'est la saison hivernale qui s'en vient très très bientôt, beaucoup de gens vont s'acheter des nouveaux casques pour la nouvelle saison. Donc, des casques, évidemment, pour l'hiver, donc des full face, comme on appelle. Et on va vous donner quelques conseils à regarder avant d'acheter un casque. Mais on va y aller pour commencer avec le côté de le nombre de livres d'air dans les pneus. Évidemment, comme si nous avons des pneus à basse pression, l'idéal sur un VTT, donc un motoquad, c'est de ne pas mettre beaucoup de livres d'air pour justement avoir une meilleure confortabilité, avoir une meilleure réception quand on traverse un obstacle. Et surtout en hiver, des fois, il y a beaucoup de bosses. Et donc, le moins qu'il y a d'air dans les pneus, beaucoup mieux la machine va se comporter en sentier. C'est la même chose aussi pour l'été, là. On y va avec la même chose. Donc, en hiver, sur un motoquad, donc un 4 roues traditionnel, moi, ce que je conseille et ce que je mets dans mon 4 roues, c'est 4 livres d'air en avant et 6 livres d'air en arrière. Donc, comme je disais, c'est des pneus à basse pression, donc il ne faut pas mettre beaucoup de livres d'air. Et sur un side-by-side, un côte-à-côte ou un autoquad, oui, il y a beaucoup de termes parce qu'on vient qu'on ne sait plus comment les appeler, mais bref, on va y aller avec les vrais termes. Donc, un side-by-side, on suggère 8 livres en avant et 10 livres en arrière. Si vous trouvez que votre machine porte un peu plus dur, vous pouvez baisser, évidemment, le nombre de livres d'air. Donc, soit vous pouvez mettre 6 en avant, 8 en arrière. pourquoi qu'on met, comme je disais, pourquoi qu'on met pas beaucoup de livres d'air? Bien évidemment, c'est pour mieux absorber les chocs et aussi pour avoir une meilleure confortabilité, un meilleur rendement dans les sentiers avec la machine. Souvent, j'ai déjà vu des gens qui mettaient, comme les nouveaux, là, ils mettent souvent des 15 livres, 20 livres d'air, là, ce qu'il faut pas faire parce que, oui, ça gonfle le pneu. C'est vrai que ça donne l'été, c'est vrai que ça donne un meilleur rendement côté vitesse, mais il y a beaucoup de dangers à ça, ce qui fait que si on pile sur une roche un peu pointue ou une branche de côté, évidemment, ça peut facilement déchirer le pneu. Donc, moins qu'il y a de livres d'air dans le pneu, ben on va protéger notre pneu pour éviter les crevaisons. C'est sûr que l'hiver, c'est moins fréquent, les crevaisons en sentier, bon, parce qu'on roule sur la neige. Mais l'été, oui, ça peut arriver très souvent. Donc, le moins de livres d'air qu'on a, mieux c'est pour la machine et absorber les chocs. Donc, ça va pour le nombre de livres d'air dans votre machine. Maintenant, concernant les casques. Évidemment, ce qu'il faut savoir lorsqu'on s'achète un casque, bien, la première des choses qu'il faut regarder, c'est est-ce que le casque est certifié DOT? Et quand on parle de certification DOT, évidemment, c'est une certification au côté sécurité. Et c'est très, très quand même assez facile à regarder. Puis pourquoi ça prend un casque certifié DOT? Bien, c'est tout simplement parce qu'il a été certifié et approuvé par le gouvernement du Canada et en même temps le gouvernement du Québec. Donc, ce que ça veut dire, DOT, ben ça veut dire tout simplement que le casque a suivi, beaucoup de tests contre la pression, contre la chaleur aussi, contre le froid et donc les renversements, beaucoup de chocs qu'un casque reçoit avant qu'il y ait une certification DOT. Aussi, comment est-ce qu'on fait aussi pour choisir un casque quand on décide d'acheter un nouveau casque? On sait que des nouveaux casques, surtout l'hiver, les casques sont très, très chers, là. Il y a des casques qui peuvent aller jusqu'à 700-800$. Évidemment, un casque de 200$, ça fait très bien l'affaire, là. Vous pouvez acheter un casque full face. Pour l'hiver, c'est toujours mieux qu'un casque d'été, si on veut. Puis on dit, je vais mettre un foulard. Oui, ça fait la job, mais c'est un casque qui est fermé exprès pour l'hiver. Ça fait très, très bien la job. Évidemment, dans les casques, bien, il y a des casques avec des poids différents. Donc, plus le casque va être léger, il va être en fibre de carbone, plus évidemment, il va coûter très cher. Mais souvent, avec ces casques-là, ce qu'on a, c'est qu'on a souvent la visière qui est chauffante avec ça. Donc, l'hiver, oui, très pratique, une visière chauffante. Mais moi, personnellement, j'en ai jamais eu de visière chauffante. À date, j'en ai pas eu de besoin, à moins que j'ai déjà roulé et il fasse vraiment froid. J'ai déjà roulé à du moins 25, moins 30. Et évidemment, avec la respiration de la bouche, oui, la vitre, ça s'embue très facilement. Mais encore là, ça, si vous voulez rouler à ces températures-là, ben, je pense que vous auriez peut-être opté pour un casque avec une visière chauffante. Maintenant, concernant les casques, la durée de vie d'un casque, parce que ça aussi, c'est une question qui nous revient à très souvent. En moyenne, un casque, c'est 5 à 7 ans. Au bout de 7 ans, on est supposé de le changer. Évidemment, il y a beaucoup de facteurs qu'il faut regarder aussi quand on change notre casque ou quand on veut changer de casque. Ou si, mettons, vous ne voulez pas acheter un casque trop cher ou quelqu'un vous dit « j'en ai un casque, je peux vous le donner », votre beau-frère, votre frère, peu importe. Oui, ça se fait, mais comme je vous dis, après 7 ans, en principe, on est supposé de le changer. Maintenant, quand on veut prendre un casque usagé de quelqu'un, toujours le prendre de quelqu'un qu'on le connaît, jamais d'acheter ça dans un marché aux puces, vente de garage, ou sur Kijiji, ou bon, peu importe. On ne sait jamais ce que le casque a eu comme accident. Est-ce que le casque a eu des accidents? Est-ce que le casque a eu des égratignures? Est-ce que la personne est tombée, etc.? Donc, est-ce que le casque a été endommagé? Oui, ça paraît pas à l'œil nu, mais des fois, à l'intérieur du casque, il y a des fibres. Et si les fibres commencent à se détacher, à se briser, mais évidemment, votre protection ne sera pas à 100% lorsque vous allez avoir un accident avec ce casque-là. Donc, c'est pour ça que c'est très important de choisir un bon casque, un casque neutre autant que possible. Encore là, comme je disais tantôt, les prix varient énormément. Donc, ça dépend de votre budget. Ça dépend combien est-ce que vous voulez mettre dessus. Mais essayez de pas hésiter non plus sur le budget des casques à 50$ dans des magasins à grande surface, pas très recommandé, évidemment. Surtout pour des adultes, c'est quand même notre vie qui est en jeu. Et aussi, la grandeur du casque, très important, c'est ne pas choisir un casque trop grand. ça prend un casque qui est vraiment adapté à notre tête. Même si dans le linge, vous portez toujours du large, et qu'en réalité, vous devez porter du médium, mais dans le casque, il ne faut pas faire ça. Il faut vraiment prendre un casque qui est adapté à notre tête. Je vous donne un exemple. Si on se tourne la tête et le casque reste droite et notre tête tourne dans le casque, là, voyez un peu l'image que je veux dire, ben c'est pas très bon parce qu'il faut que le casque nous suive aisément avec les mouvements qu'on va faire quand on va être assis sur notre quad pour regarder ce qui se passe autour de nous autres. Donc ça, je pense que c'est assez important de choisir le bon casque avec le bon poids et évidemment le bon budget. Donc écoutez, ben cette semaine, ça termine un peu ma chronique. Si vous voulez en savoir plus, vous savez que vous pouvez nous suivre sur notre site internet www.levttshow.com ou sur nos pages Facebook, soit la page Facebook Le VTT Show ou encore le groupe Le VTT Show Information et Essai. Donc sur ce, moi je vous dis ben bonne semaine et on se reparle bientôt. Merci tout le monde.
Simplement plein air, c'est de la balado. Simplement plein air, c'est de la radio. Et maintenant, simplement plein air, c'est de la vidéo. Et oui, profitez-en pour visiter notre canal YouTube Simplement plein air et abonnez-vous. Après tout, simplement plein air, c'est pour vous.
Et voilà, nous sommes de retour à l'émission Simplement plein air. Et j'ai beau me répéter, mais que vous nous écoutiez à la radio ou en balado, au boulot, si vous êtes au boulot, faites attention, le boss est pas loin. Mais là, on va aller faire un tout petit tour du côté de l'Abitibi-Témiscamingue. Et on va aller parler d'une chose qui est fort importante, d'un sujet, pas d'une chose, là, mais d'un sujet fort important. Premièrement, je vais aller chercher notre chroniqueur que vous connaissez bien. Et pour les nouveaux, ben, il s'agit de M. Guy Larochelle. Salut Guy.
Salut.
Hey, cette semaine, on va parler, on avait déjà entamé la discussion sur les bienfaits qu'a la nature sur notre santé mentale. Et puis j'ai bien aimé, juste en ronde, quand je t'ai demandé, well, qu'est-ce qu'on avait parlé la semaine passée, donc tu m'as dit, ben la pilule du plein air. Mais c'est vrai, hein, c'est vraiment une pilule, le plein air.
Oui, effectivement. Moi souvent, je vais employer le terme, c'est ma thérapie. Souvent, je vais dire ça, là, aller dans le bois, pour moi, c'est une thérapie. En premier, c'est un réconfort quand on va dans le bois.
Absolument. Absolument, absolument. Juste partir, là, et puis, tu sais, faut pas que tu partes avec des attentes, par contre. Tu sais, tu pars, puis quand tu vas en nature pour prendre une marche ou faire de la cueillette de champignons ou aller à la chasse ou peu importe, tu pars avec le... Mais en tout cas, moi, là, je pars avec l'esprit ouvert et puis, écoute, je me laisse juste aller, juste les sons de la nature, juste la senteur du bois. Bien, déjà là, moi, pour moi, c'est accompli.
Oui, puis une fois que tu décides d'y aller, une fois que tu décides de partir, bon, ben là, ça prend une certaine préparation. Comme ce matin, là, en Abitibi, on a un couvert de neige. Il vente. On peut décider d'aller en forêt quand même. Une fois que tu as décidé d'y aller, bien, pose-toi la question, c'est pourquoi que tu es allé dans le bois. On va pas là pour chialer, on va pas là pour bougonner. Pose-toi la question, pour quelle raison tu vas aller en forêt? Pour quelle raison tu vas aller dans la nature?
Oui.
C'est un ressourcement, ça peut être bien des choses.
Oui, puis tu sais que les ancêtres, nos ancêtres disaient, et ça, je suis certain qu'ils ont tiré de ça des Amérindiens, le printemps ou l'été, ou en tout cas juste avant ou après les bibites, là, pas dans la neige naturellement, mais disait que la marche la plus thérapeutique qui soit est une marche en forêt naturellement, les pieds nus pour toucher à, pour se regrounder si on veut, là, pour avoir une mise à terre, faut toucher au sol.
Oui, un contact avec le sol.
Oui, ouais, ouais, ça a peut-être l'air farfelu, mais tu sais, quand on va dans le bois, je ne te dis pas d'aller dans un bois extrêmement sale, là, mais dans un sentier, moi je l'ai déjà fait, j'ai déjà essayé ça jadis, et puis j'avais aimé l'expérience, je n'ai pas fait 70 km, là, remarquez, j'ai fait un bout, et puis juste le contact avec le sol, j'avais trouvé ça assez différent, moi, de dire.
Oui, bien, tu me fais penser que les premières fois qu'on faisait de la raquette, ben on allait chercher des mocassins. On avait des mocassins pour se promener dans le bois. Puis on trouvait ça, hey, c'était hot. Puis quand tu enlevais tes raquettes autour du feu puis tu te mettais à marcher autour, ben c'est vrai qu'on avait... Le contact avec le sol était différent.
Ah, complètement. Complètement. On sent le sol, on sent les petites choses sous nos pieds. Et puis, très, très belle analogie, justement, oui, parce qu'on a, hein, on a tous eu des gens d'un certain âge, on a tous eu une belle paire de mocassins, là, de peau qu'on se promenait avec, et puis, on a tout fait de ça. Moi, je mettais même ça partout, là. J'usais ça, moi. Pas long, moi, 3-4 paires de mocassins par hiver. Je les avais tout le temps dans les pieds.
Oui, puis un autre aspect aussi, moi, ce que je ressens quand je vais en forêt, là, exemple, supposons qu'ils vantent. On arrive, on sort dehors, on sort de la maison, ils vantent. On arrive dans la forêt, ben le vent, il n'est pas pareil. On dirait qu'il est absorbé par les arbres. Puis, moi, je me sens en sécurité quand je suis en forêt.
Oui, oui, effectivement. C'est sûr que quand il y a un grand vent, il faut faire attention dans le genre de forêt où on est pour pas qu'il y ait de vieux arbres qui craquent et puis qui cassent et puis des choses de même. Mais ça, oui. On connaît notre forêt, on sait où aller ou pas aller habituellement. Mais comme tu le dis, quand il y a, moi j'aimais beaucoup quand il y a une petite brise, là, parce qu'on peut sentir, puis je suis certain que ça t'est arrivé, tu te promènes lentement en forêt, là, puis à un moment donné, tu arrives dans un courant d'air. Ça t'est déjà arrivé?
Oui, absolument. Bien, la semaine dernière, ça m'est arrivé. On est parti le matin. Je pense qu'on en a parlé la semaine dernière dans le chronique. On part le matin, c'est brumeux en ville. On arrive dans le bois. Là, c'est quand même assez frais autour du zéro. Assez frais, il faut s'entendre. Disons, assez frais que comparé à l'été. Oui. On arrive au camp, puis un vent du sud arrive. Puis là, on sent la chaleur là, nous toucher le visage. C'est particulier.
Ah oui, c'est particulier. Puis même des fois, tu t'en vas en pleine forêt, tu es dans un petit sentier. Puis là, à un moment donné, de côté, tu sens un air, de l'air chaud, un courant d'air chaud. Ça, c'est des courants d'air, des petits mini jets d'air, comme on appelle, là, qui se promènent, là, les courants d'air. Puis naturellement, bon, c'est surtout pour les chasseurs, là, les gars le savent, faut toujours avoir là, le vent en pleine face. Hein? Ouais. Et puis, quand on déambule dans le bois, puis on se dit, ben quand on l'a dans le cou, oups, on s'en va pas du bon côté.
C'est ça. Puis le contraire va arriver en fin de journée. On va sentir les courants d'air frais là, quand on se déplace, surtout en mode chasse, là, comme tu dis. Puis sentir ces petits courants d'air frais-là arriver, puis dire, oh oui, on va avoir une belle soirée.
C'est ça. Oui, effectivement. Puis il y a beaucoup de gens, tu sais, on va revenir un peu aux bienfaits que la nature nous apporte. Il y a beaucoup de gens, comme je disais au début, allez-y pas avec un but fixe. Allez-y pour, justement, vous promener, oui, là. Mais, tu sais, s'il y en a beaucoup qui vont y aller, ils vont dire, bon, ben, tu sais, faut que je fasse de quoi en forêt. Je ne vais pas là pour rien. Ben, c'est le contraire, là. Vous y allez pas, oui, pour rien. Vous y allez pour votre santé mentale. Pour que ça vous fasse du bien.
Oui, puis il n'y a pas de raison de ne pas profiter de ça. C'est tellement bon pour la santé mentale, il faut en profiter. Et quand on est là, on en profite, on regarde, on écoute, puis on sent, tout simplement. Écouter, regarder, sentir.
Oui, non, absolument, absolument. Et puis on reste étonné, hein. Quand on déambule en forêt, si on a une petite caméra avec nous, même maintenant avec nos cellulaires, on peut prendre de très belles photos. On s'amuse, on y va sans but précis, là. Juste aller se promener, se ressourcer, qu'on soit seul, qu'on soit à deux, qu'on soit en petite famille. Parce que c'est beau de voir l'émerveillement d'un enfant là, ou des enfants quand ils sont en forêt et puis qu'ils regardent autour d'eux autres. Là, il n'y a pas de prix à ça.
Il n'y a pas de prix à ça, comme tu dis. Puis on n'a pas besoin d'être là 3 heures, 4 heures. Là. Aller là 1 heure en forêt, ça a du bienfait.
Ah oui, absolument. Absolument, absolument. Hey, écoute, Guy, le temps file rapidement. La semaine prochaine, bien naturellement, là, on va commencer à vouloir parler un peu de préparation, pêche blanche aussi qui s'en vient, tes activités, qu'est-ce que tu vas faire cet hiver, as-tu de quoi de prévu? On va parler un peu de toutes ces petites choses-là.
Oui, parfait ça. On va commencer à regarder ça, qu'est-ce qui s'en vient pour l'hiver.
Absolument. Et puis en même temps, bien naturellement, si vous voulez contacter Guy, c'est M. Guy Larochelle sur Facebook. Vous allez voir un archer, un gars de dos là, avec son arc dans le bois. Et puis, un gars de, naturellement, Rouyn-Noranda. Donc, là-dessus, Guy, nous, on se rejoint la semaine prochaine.
Oui, merci. Bonne semaine.
Et bonne semaine à toi. Et nous, bien naturellement, on va prendre une petite pause et on est de retour après ceci.
On s'imagine pas qu'il y a autant de familles qui mangent pas à leur faim au Québec. Cette année, j'ai décidé de donner de la viande de gibier pour venir en aide à des familles de ma région. C'est pas compliqué. Je dis à mon boucher la quantité que je veux donner et un organisme passe pour aller distribuer la viande aux familles dans le besoin. Chasseurs, soyez donc généreux.
Salut les passionnés, ici Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur, secouriste certifié pour Québec Compostelle qui est préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le bout du monde, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. Bienvenue donc à notre rando-rencontre avec notre invité Jasmin Coq-Volant, La Fortune, qui a fait tout un exploit en Cap d'Acier récemment, 200 km. Je te dis, c'est quelque chose. On s'en parle dans les prochaines secondes. Donc, bienvenue à notre rando-rencontre qu'on écoute à votre radio préférée ou encore en rediffusion via le podcast ou même sur la chaîne YouTube de Québec Compostelle. On est là pour échanger sur la rando, vous donner de l'information, se préparer pour marcher en solo ou encore entouré ensemble. D'ailleurs, on a démarré un beau projet récemment qui s'appelle le défi « Ça marche ». Hein, ces temps-ci, on est un petit peu pris dans un genre de confinement, on appelle ça de même, ouais. Et puis, on peut pas bouger autant, faire autant de nos activités. Bien, une des plus belles choses qu'on peut faire, c'est d'aller bouger et marcher dans son quartier, dans sa ville, dans sa région. Mais on le fait en solo ou avec son amoureux. Puis, on peut le faire collectivement également via des applications, via des outils qu'on a mis. Et c'est vraiment génial parce qu'on se garde en santé tout en encourageant le développement du Chemin du Québec. On va faire un tour sur chemindukébec.ca et c'est un des premiers carrés là, en haut, juste après la photo du grand phare. C'est écrit « Défi, ça marche ». Clique là-dessus pour avoir tous les détails, pouvoir participer. Lui, il est parti à la marche. Tout un défi d'ailleurs qui s'est relevé. Il s'agit de Jasmin Coq-Volant La Fortune. Coq-Volant, c'est un nom qui s'est donné à l'époque quand il était genre dans les scouts. Et puis, il a décidé récemment de faire une marche, même une certaine démarche. On va commencer par savoir qui est Jasmin.
Grosso modo, là, faire une histoire courte, moi je suis animateur horticole. Je fais des jardins dans les écoles, dans les camps de jour, dans les maisons pour aînés. Je jardine collectivement. Fait que je suis un jardinier qui enseigne le jardinage. Puis quand une année il n'y a pas de COVID, là, ben je jardine à peu près avec 2000 personnes par année. Fait que tout ça là, dans Lanaudière au grand complet. C'est vrai que la saison a coupé court, puis Mathieu, je me suis tenu bien occupé, j'ai jardiné à ma ferme, puis j'ai implanté des choses plutôt sur la ferme que j'ai à Saint-Ambroise, puis les activités se faisaient plus petites et moins nombreuses, et j'avais bien besoin de vacances.
Puis c'est pas le genre de bonhomme qui va partir dans le sud, tu sais, il va genre s'ennuyer à mort dans le sud. Lui, il voulait faire quelque chose de significatif. Puis il voulait pas, comme il dit, brûler de pétrole, OK? C'est dans ses convictions. Et là, en même temps, est arrivée l'histoire dans Lanaudière de cette dame, Joyce, qui a été... les enquêtes le démontreront, mais qui est décédée dans un hôpital de façon un peu étrange. Et on parle beaucoup de racisme ici, etc. Donc, lui a fait 1+1, puis s'est dit, tiens, moi, je vais aller offrir mes condoléances à la famille. Sauf que la famille est à 200 km de lui, puis il voulait pas y aller en auto. Donc, il est allé à pied, puis il est allé en Cap d'Acier. Il n'y a rien là, voyons.
Non, j'aime faire de la randonnée une fois de temps en temps. Je peux, tu sais, ça arrive même pas à tous les étés seulement, pour dire. Mais je suis jardinier dans la vie, puis je suis bien en forme. Fait que je me suis dit, partir à pied, il n'y a rien là, tu sais. Je me suis ravisé après une journée de marche, il n'y avait plus de « y a rien là ». Mais ouais, c'est ça. J'aime la rando, j'aime le calme, puis j'aime le nord aussi, j'aime la neige. Fait que ça me faisait pas peur de monter dans le nord.
Il y a tellement deux messages ici. C'est vrai qu'il y a rien là de faire de la rando. C'est juste qu'il faut être un petit peu préparé, hein. Puis être préparé, là, ça veut pas dire d'acheter un kit à 5000 piastres, là. L'impression que je parle d'autre chose, moi, là. Mais, tu sais, on peut faire de la rando, de la marche et être équipé avec ce qu'on a alentour. Puis après ça, on améliore. Sauf que de partir avec des capes d'acier, pour ceux que c'est une bonne idée, je pense qu'il l'avoue lui aussi. Puis ce qui l'influençait positivement, puis ce qui a joué des tours un peu, c'est la discussion qu'il y a eu avec son oncle. Il avait déjà fait Compostelle.
Ah, oh, ça, c'est le plus beau, la plus belle partie du trip, j'oserais dire. Moi, là, mon oncle m'avait dit qu'on fait à peu près entre 15 et 60 kilomètres de... entre 15 et 30 kilomètres de marche par jour. Okay? Entre 15 et 30. Puis lui, il avait fait Compostelle. Puis, là, moi, quand que mon oncle de 60 quelques années, il me dit qu'il en fait 30, moi, j'en ai, tu sais, peut-être les bretelles, là, jeune jardinier fringant. Fait que je me dis, pas de problème, m'a fait 30 kilomètres la première journée. Puis j'avais une place où aller dormir, c'était un motel à Saint-Jean-de-Mata, qui était à 30 kilomètres de chez nous. Mais après 5 kilomètres, j'avais ma première ampoule, qui a pas été un gros problème, mais qui était quand même là. Après 15 kilomètres, là, je commençais à avoir mal dans les genoux un peu, mais au bout de 25, j'étais plus capable de faire un pas. Fait que ma première nuit s'est retrouvée à être à la Belle Étoile.
Alors, c'est pas compliqué. T'es mal préparé, c'est l'enfer. T'es bien préparé, ça va être le bonheur total. Et plus il approchait de la communauté des Premières Nations, ben plus il était un peu nerveux parce qu'il savait pas comment il allait être reçu. Hein. Oublions pas qu'il est là pour offrir ses condoléances, puis il savait que le premier ministre avait été refusé quelques jours auparavant au funérailles. Mais c'est tout le contraire qu'il a vécu. Rendu là, et quand on y a parlé, ça faisait d'ailleurs une semaine qu'il était là pour l'instant, il relaxait, il a reçu énormément de remerciements, de bonheur, d'amour, des gens qui l'ont vraiment bien accueilli. Il est extrêmement content de son aventure, de son voyage. Non, mais disons, son aventure de vie.
Moi, je suis parti avec la haine de mon système. Je suis écœuré de notre système triangulaire inégalitaire. Puis, je suis parti... Mais en montant, je marchais, puis ce que j'avais le goût, puis ce que je disais dans mes vidéos, c'est j'espère aller trouver de la sérénité un peu, parce que ces peuples-là qu'on a persécutés pendant des centaines d'années, ils ont l'air sereins encore. Il y aurait toutes les raisons de nous haïr, mais ils ont l'air sereins. Puis ce que j'en retire, c'est tout l'amour. L'amour est drivé par l'amour. En ce moment, on est en pandémie, puis notre gouvernement cultive la peur, mais... C'est pas ça qui nous drive la peur, c'est l'amour, l'amour. Les gens sont venus nous donner de l'amour sur Internet, puis de toutes parts, là, « Hey, on va t'aider, Jasmin, puis veux-tu de l'argent, puis veux-tu, je m'en vais t'acheter quelque chose. » Hey, les gens, ils me donnent des cadeaux, hey, ils arrêtaient, ils allaient me chercher un café, puis on m'arrêtait sur le bord de la route, « Hey, Jasmin, c'est bon ce que tu fais. » On est drivé par l'amour, c'est ça que je retiens là-dedans, puis c'est ça que je vais ramener dans le sud.
As-tu déjà réalisé la marche? Tout ce que ça peut donner, le bonheur, la santé, l'aventure. Hey, c'est juste de la marche! Mais c'est la plus belle, la plus grande aventure de ta vie. Ça tente d'en découvrir davantage. Écoute, on a un truc tellement simple ces temps-ci qui s'appelle le défi « Ça marche ». C'est bon pour ta santé physique, mentale, ton moral. Ça te fait sortir, ça te fait bouger. Hein? T'as faim, tu manges. T'as soif, tu bois. T'as mal à quelque part, c'est peut-être que tu bouges pas assez. C'est pas pour rien que les médecins nous prescrivent maintenant de marcher. Le défi, ça marche, c'est exactement pour ça. Ça aide les gens, ça prend les gens par la main, doucement, un pas à la fois. Et en même temps, ben, tu donnes un coup de main pour le développement du chemin du Québec de 1200 km entre Montréal et le bout du monde. Alors, on va faire un tour sur le site internet cheminduquebec.ca. Tu vas voir, il y a un gros carré, un portrait, juste après la photo du phare. Tu cliques là-dessus, ça marche, c'est le défi, ça marche. Alors, ça te tente d'en savoir davantage, et surtout te préparer, il y a de la formation que l'on offre. Hein. Va voir les ateliers, les formations qu'on offre également sur notre... va voir notre calendrier sur quebeccompostelle.com, toutes les activités. On a des activités presque à toutes les semaines. On est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Québec Compostelle, ça marche.
Au chalet comme à la maison, verrouille ton arme. En cas de doute sur la façon d'entreposer ou de transporter ton arme, opte toujours pour l'option la plus sécuritaire. En collaboration avec l'Association québécoise de prévention du suicide, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs rappelle aux propriétaires d'armes à feu qu'une arme bien verrouillée peut éviter des drames.
Tu trouveras tous les règlements présentés de façon visuelle et simple sur sécurité-armes-à-feu.com.
Verrouille ton arme.
Et nous sommes de retour à l'émission Simplement plein air. À ce temps-ci de l'émission, bon, on va se gâter un petit peu, hein? On va parler sac à dos. Et oui, ceux qui ont écouté la première chronique de Marc Prince, notre ami Marc le Bushman, on a parlé sac à dos, l'importance d'avoir différents sacs à dos. Et on va continuer cette semaine sur la même aire d'aller parce que on n'avait pas terminé. Salut Marc!
Salut Guy, ça va bien?
Oui, absolument. Hey, tu nous as parlé la semaine dernière de sacs à dos, différents sacs à dos. Est-ce qu'on devrait avoir plus d'un sac à dos? Mais là, cette semaine, c'est bien beau avoir 3 sacs à dos ou 2 sacs à dos. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'on fait avec ces sacs à dos-là. Puis comment, tu sais, un sac à dos, c'est le fun, là, mais tu sais, on prend ça au Dollarama.
Idéalement, je dirais que non. Si vous voulez acheter un sac à dos pour aller au Dollarama, ça va être un petit sac à dos là, pour faire vos emplettes en ville. Là. Mais si vous voulez faire de la randonnée, là, je vous conseille plus d'aller dans des magasins spécialisés tels que Pro Nature ou Wanaranda, puis aller voir les spécialistes pour suggérer vraiment là, un sac qui va être adapté à vos loisirs.
Oui, puis ça, c'est important. C'est justement, tu as dit le mot magique, adapté à vos loisirs. Mais là, c'est bien beau avoir ça, mais qu'est-ce qu'on met dans ces fameux sacs à dos-là?
Mais là, en partant, c'est un petit peu, on va juste passer vite fait sur le ce qu'on a dit la semaine passée. On avait parlé de grosseur. On disait idéalement, là, quelqu'un là, qui va faire de la randonnée, là, idéalement, c'est d'avoir 2 sacs à dos. Parce qu'on disait que ça dépendait, mettons, des journées qu'on voulait faire nos randonnées. Aussi, ce qui est vraiment important, là, tant qu'à moi, en tout cas, là, c'est le contenu des sacs à dos. On en vient à ça. Là. Vous pouvez prendre le contenu d'un sac à dos pour le transférer dans un autre sac à dos. Idéalement, je vous dirais, là, si vous avez 2 sacs à dos, là, c'est qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, là, selon moi, en tout cas, là, quand je pars en forêt, c'est sûr que je vais tout le temps avoir ce minimum d'équipement-là. J'aime beaucoup avoir l'avantage de ça, c'est que on n'oubliera rien, mettons, en transférant d'un sac à dos à l'autre. Quand je parle des équipements, mettons, vraiment, là, qu'il faut vraiment pas oublier, là, selon moi, en tout cas, comme je vous dis, c'est selon mon expérience, c'est les 5C. Les 5C, je pense qu'on en a parlé un petit peu l'année passée quand on parlait de bushcraft, là.
Mm-hmm.
Fait que pour les énumérer, là, on a le couteau, on a le contenant. Le contenant, je suggère tout le temps d'avoir un contenant en aluminium. Je vais vous dire pourquoi ensuite. On a le couteau, le contenant, la couverture, le combustible, puis de la corde. Ces 5C-là, là, on devrait tout le temps avoir ça dans un sac à dos. Que ça soit pour une excursion d'une demi-journée, d'une journée ou de 3 jours, on devrait tout le temps avoir ces minimums-là dans notre sac à dos.
Peu importe le sac à dos, là.
Peu importe le sac à dos. C'est un petit équipement, mettons, qui prend pas beaucoup de place. Souvent, ce qu'on peut faire, là, c'est acheter, nous autres, de la façon qu'on fonctionne, on achète des petites étuis à crayon. On ramasse de l'orama, puis à crayon en nylon. Ça contient quand même beaucoup de stock. Fait qu'au lieu que ça aère un petit peu partout dans le fond de votre sac à dos, vous pouvez mettre ça là-dedans. Moi, personnellement, ce que je vais rajouter dans ce petit équipement-là, c'est une paille filtrante pour boire de l'eau. Puis, ou sinon des capsules là, pour pouvoir purifier.
Oui, ça c'est important parce qu'on sait que l'eau aussi, hein, tu sais, l'eau est pesante. Donc, si on peut avoir un système de filtration, toi, tu suggères-tu de traîner beaucoup d'eau ou tu traînes de l'eau, mais tu as toujours ça avec toi? Là?
Ben moi, mettons, quand je pars pour une randonnée d'une journée, là, je vais tout le temps avoir le minimum de. J'ai une gourde là, qui. Ben donc, il me donne l'équivalent de 2 bouteilles d'eau, des bouteilles d'eau d'Esca qu'on achète. Là. Fait que je rentre 2 bouteilles d'eau au complet dans cette gourde-là. Fait que ça, c'est un minimum que je vais traîner, là, mettons, pour. Je parle d'une excursion d'une journée. C'est sûr que si on va faire des excursions de plusieurs jours, on va essayer d'en emporter un peu plus. Mais par contre, comme tu le disais, là, c'est l'eau, là, c'est quand même lourd à porter. Fait que. Dans le chargement, il faut vraiment, là, c'est sûr, faut pas oublier l'eau, là, mais il faut vraiment compter ça comme un poids supplémentaire.
Oui, puis je pense, si je me trompe pas, là, c'est c'est à peu près ce qu'on a de plus pesant à traîner, là.
Oui, absolument. Ça en vient à dire que quand je vous disais tantôt, quand on parlait des 5C, qu'on disait contenant, je suggère aux gens d'avoir un contenant en métal. C'est justement pour ça. Ça peut être tout simplement, le contenant peut être une gourde en métal. C'est que vous allez pouvoir vous en servir justement pour faire bouillir de l'eau, pour faire chauffer de la nourriture. Si vous emmenez un contenant, soit en plastique ou en d'autres matériels, mais oubliez ça, on peut pas mettre ça sur le...
Ouais, non, c'est sûr qu'on trouvera pas de micro-ondes non plus, puis on c'est pas conseillé non plus de mettre le plastique dans le micro-ondes, là, mais parce que c'est cancérigène, mais c'est certain que c'est pas trop utile,
là. Non, absolument pas, puis mettons, ce contenant en métal-là, là, vous allez vraiment l'apprécier là, pour plusieurs activités, mettons, que ça soit, comme je disais, pour ramasser de l'eau, pour éteindre le feu, que ça soit pour faire bouillir de l'eau pour la consommation, que ça soit pour se faire réchauffer une soupe, peu importe, c'est vraiment un contenant en métal.
Donc, toi, là, tu n'es pas du genre là, à traîner des petites gamelles, là, tu sais, des petites poêlonnes, puis tout ça, tout en un, comme un MSR ou de quoi comme ça, là?
Moi, j'en traîne un dans mon sac de bushcraft.
Ah, OK.
Quand je fais bushcraft l'hiver, là, c'est un petit kit là, style armé. Là. Quand on roule, là, ça, c'est en métal, c'est sûr, mais c'est semblable à une poêlonne, puis l'autre partie qui fait le couvercle de la poêlonne, elle est séparée en serre d'assiette. Là. C'est vraiment, mettons, le kit que je traîne. Puis aussi, à ne pas oublier, je suis certain qu'il y en a qui doivent dire « Ah, alors, c'est pas prudent, il n'emmène pas ça. » Trousse de sécurité.
Ouf, oui.
Ça, on devrait jamais passer au côté. On en parle pas assez souvent, puis c'est une petite négligence de ma part. Trousse de sécurité, ça devrait être un article qui va rentrer en priorité dans n'importe quel de votre sac à dos.
Oui, parce que, finalement, un, ça coûte pas cher. Et puis deux, hein, un accident est si vite arrivé dans le bois, là. C'est vite arrivé, là.
Et aujourd'hui, c'est vraiment le fun parce que les gens, là, mettons, c'est plus à la mode des sorties en forêt. Puis les fournisseurs, là, ils font vraiment des petites trousses de sécurité là, qui sont vraiment bien adaptées. Souvent, là, sont dans des contenants qui sont scellés. C'est incroyable comment la trousse est petite. Elle n'a pas besoin d'entraîner puis vous allez avoir beaucoup d'accessoires là-dedans. Vous pouvez y rajouter tout simplement, comme je disais tantôt, des capsules pour purifier l'eau. Vous en mettez quelques-unes dans votre trousse de sécurité. Fait que c'est quelque chose qui va vous suivre là, tout le temps.
Oui, exactement. Puis comme tu le dis, tu sais, c'est tellement bien fait maintenant là. Puis l'essentiel est dedans. Tu sais, c'est sûr qu'on ajoute toujours des choses, mais l'essentiel est là. Donc vous savez que vous avez, ça donne une sécurité finalement. Tu sais, c'est sûr qu'il n'y a pas une paire de béquilles là-dedans, là, puis il n'y a pas une civière, là, mais il y a tous les éléments, comme la couverte, bien souvent, de sécurité. Puis ça, c'est une autre affaire. Tu sais, la petite couverte d'aluminium, la couleur aluminium, là, qu'on pense que ça sert à rien. Mais vous dire une affaire, essayez-la. Essayez-la, vous allez rester surpris.
Absolument, c'est vraiment utile, puis c'est tous les accessoires que vous allez retrouver dans tous les magasins plein air, là, puis c'est vraiment pas dispensable.
Absolument. Hey, écoute, Marc, si on veut, là ça va excessivement vite, mais si les gens veulent de l'information, justement pour se monter un bon kit, parce qu'on sait que les éléments vont se retrouver naturellement en magasin chez ProNature à Rouen, ils pourraient faire de quelle façon pour te rejoindre, pour s'informer puis se monter de quoi qu'il y a de l'allure, là?
Ben, les gens de Rouen peuvent tout simplement passer en magasin. Ceux qui sont à l'extérieur peuvent communiquer avec nous en magasin là, au 819-797-2300 ou vous pouvez discuter avec moi sur Messenger. Vous n'avez qu'à me demander comme ami sur Facebook. Je refuse personne. Tout ce que je demande, c'est que quand vous allez me demander pour être ami, m'envoyer un petit message, me dire pourquoi vous voulez être ami avec moi. Vous dites, je veux discuter de chasse et pêche, plein air, là, mais ça va vous faire plaisir. Puis à ce moment-là, on pourra discuter et on pourra vous suggérer des produits là, pour agrémenter vos sorties en nature.
Et absolument. Et nous, bien naturellement, on est gâtés avec Marc. C'est le fun. Puis on va retrouver Marc la semaine prochaine. Donc, Marc, tu passes une bonne semaine tout en sécurité.
Yes, c'est promis. Bonne semaine, gang.
Et nous, bien naturellement, demeurez là. On vous revient après ceci.
Simplement plein air, c'est de la balado. Simplement plein air, c'est de la radio. Et maintenant, simplement plein air, c'est de la vidéo. Et oui, profitez-en pour visiter notre canal YouTube Simplement plein air et abonnez-vous. Après tout, simplement plein air, c'est pour vous.
Et voilà, nous sommes de retour à l'émission Simplement plein air. Et après, naturellement, une bonne recette, comme les filles viennent de nous donner. On s'est bourré la bédaine bien comme il faut. Mais là, on va aller parler avec, pour les initiés, là, pour les gens qui nous écoutent à la radio. Vous savez que c'est le moment où on va rejoindre M. Roger Larivière. Bonjour, M. Larivière.
Bonjour, M. Martin.
Aujourd'hui, parce qu'on peut nous écouter un peu n'importe quand, on va parler encore Chaga. Hein? On va parler Chaga. Je ne devrais jamais dire encore parce qu'on n'en parlera jamais assez. Mais les informations que je tire sont du bouquin Chaga en vrai aux éditions de l'ABC de M. Roger Larivière. En collaboration, aidez-moi, M. Larivière, avec...
Isabelle Desgagnés-Pélix, qui est une biochimiste, professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières et qui dirigeait un projet de recherche de niveau doctoral sur le Chaga. Donc, c'est pas rien comme collaboratrice.
Oui, absolument. Et là, bien, naturellement, moi, beaucoup d'informations, je les tire de là et de ma mémoire, du petit tiroir de ma mémoire, car je suis consommateur de Chaga, naturellement, depuis bon nombre d'années. Mais là, une question nous a été posée, M. La Rochelle, et juste une petite anecdote. Personne qui nous dit « Je comprends pas, moi, je vais dans le bois assez souvent, j'ai une belle grande érablière, mais je trouve pas de Chaga. C'est quoi l'erreur? »
L'erreur est simple. C'est parce que le Chaga, ça pousse essentiellement sur nos bouleaux, nos espèces sauvages, soit le bouleau blanc, soit le bouleau jaune. Et il est possible de trouver du Chaga dans une érablière à condition qu'on rencontre à un moment donné un bouleau jaune qu'on appelle communément du merisier, mais on le rencontre beaucoup, beaucoup plus sur le bouleau blanc.
Oui, absolument. Donc, voilà, on répond à la question de notre auditeur. Naturellement, il faut rechercher le bouleau blanc ou le bouleau jaune, mieux connu sous l'appellation merisier. Donc, ça, c'est un. Mais là, quand on part et puis on va chercher notre fameux Chaga, naturellement, si on est dans une région sec, est-ce qu'on en trouve du Chaga ou il faut nécessairement fouiller un petit peu ou est-ce que c'est humide?
Moi, d'expérience, je regarde quand je cueille, évidemment, je recherche surtout les peuplements de bouleaux. Puis étant donné que je suis en forêt boréale, donc en Abitibi, ces peuplements forestiers-là s'appellent des bétulets. Puis il faut savoir que le bouleau, c'est un arbre de lumière, alors il pousse dans les premiers stades de formation d'une forêt. Et on peut le trouver, le bouleau, dans des endroits qui vont avoir été déboisés. Et on trouve aussi bien en bas, j'en ai cueilli près de rivières où il y avait du gros bouleau. Puis on peut trouver aussi du bouleau en montant, une montagne, même quasiment en haut des fois. Mais là, ils sont plus petits, mais ça n'a pas tellement d'importance le type de sol comme l'endroit où il va pousser après une coupe, un chablis, qui est un gros coup de vent, ou une coupe forestière. Le bouleau, là, il cherche la lumière. C'est un premier à s'installer comme arbre.
Oui, effectivement. Autre question, j'ai trouvé un arbre couché par terre. Il y avait du Chaga. Est-ce qu'il est bon?
Eh là là! Ça, c'est une question qui est posée aussi, que les gens présentent sur Facebook, surtout de ce temps-là, parce que quand on retourne à l'automne, les gens ont abandonné la cueillette des champignons mous pour s'adonner à la récolte du Chaga. Et puis, c'est là. Donc, quand il est sur un arbre couché, mais l'arbre peut être aussi debout, il faut toujours regarder si l'arbre est vivant. Puis même s'il reste juste une branche de vivant, le Chaga est encore vivant. Puis ça, on le reconnaît quand on le casse sur le tronc de l'arbre, là. Il va être marbré, il va être crème, un peu brun. Alors que sur le fameux arbre couché dont vous parlez, ben il est fort possible que le bouleau soit mort. Et à ce moment-là, le chaga est rendu dans un autre stade de son cycle de vie. Il est en train de se reproduire, puis l'intérieur va être brun assez foncé. Puis il n'est pas bon à manger, il n'est pas bon à consommer.
Non, absolument. Et autre question, ça c'est une question qui, en tout cas moi qui m'a toujours un peu fait rire, là, mais fait rire, c'est une question qui est légitime, je m'excuse, question légitime, quand on trouve un chaga, est-ce qu'on peut le récolter au complet ou si on est mieux d'en laisser après l'arbre, parce que finalement on veut avoir... On veut que ça repousse.
Ah oui, oui. Bon, ben là, il faut savoir aussi que ce qu'on récolte sur le tronc de l'arbre, c'est du mycélium. C'est uniquement du mycélium et la partie extérieure de ce mycélium-là est complètement noire parce que le mycélium est exposé à la lumière, aux rayons ultraviolets. Alors, il y a des gens qui croient très, très fermement, puis là, vous venez de le mentionner, qu'il faut en laisser la moitié, 1 cm, 2 cm d'épais. Ben écoutez, ce que l'arbre produit en surplus, ou ce que le champignon lui-même produit en surplus, ben il est à l'extérieur. Mais il faut savoir que le travail du champignon se passe à l'intérieur du tronc de l'arbre. Alors moi, ma position, et je la défends fermement, c'est qu'on peut récolter le champignon au complet, le chaga, donc, sans creuser à l'intérieur de l'arbre, en faisant un trou, là. Mais il faut quand même être, moi je dis en anglais, faut être flush avec le tronc.
Ah, OK. Donc, dernière question, et puis le temps file rapidement. J'ai récolté du chaga et puis vers justement le tronc. J'ai remarqué qu'il y avait c'était ligné dedans. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça fait partie du chaga?
Ben écoutez, comme je viens de le dire, là, le chaga, c'est un champignon. C'est un champignon qui appartient à la grande famille des polypores. Et ce qu'on voit, le lignage à l'intérieur, c'est probablement le mycélium qui est de deux couleurs. Le mycélium qui va être crème, qui va être roux. Et c'est très bon à cueillir. Puis d'ailleurs, on peut cueillir le chaga à l'année, contrairement à ce qu'on a déjà entendu dire.
Ah, et voilà, vous avez entendu de M. Roger Larivière, qui est conférencier, qui est aussi auteur, et écoutez, le livre Chaga en vrai, là, ça fait un méchant beau cadeau de Noël, ça, les fêtes approchent. Donc, mais il n'y a pas juste ce bouquin-là, parce que vous avez... un petit répertoire, vous êtes éditeur aussi. Vous avez une dizaine de livres à votre actif présentement. Oui. Là.
C'est ça. En tant qu'éditeur depuis presque 2 ans maintenant, j'avais déjà commencé à écrire et c'est effectivement vrai que j'ai comme à peu près j'ai une dizaine d'ouvrages à mon actif. J'ai eu beaucoup de réimpressions, rééditions. Puis je vous dirais que la maison d'édition va très bien parce que la nature, c'est devenu un engouement incontournable.
Absolument. Puis si on veut plus d'informations, M. Larivière, on le fait de quelle façon, rapidement?
Oui. Alors, mon site web, naturat.ca, naturat.ca. Et là, vous avez toutes mes coordonnées. Et je suis sur Facebook. Ça me fait toujours plaisir de répondre à des questions. D'ailleurs, j'en ai assez souvent qui m'arrivent par là. Alors, j'aime partager.
Et voilà, c'était M. Roger Larivière. Et nous, ben, on retrouve M. Larivière la semaine prochaine. Et on va naturellement, encore une fois, parler chaga et son habitat, ou le chaga en général. toujours tiré du livre Chaga en vrai aux éditions de... je devrais dire, bon, je me suis enfargé à l'ABC de l'édition. On va finir par l'avoir. Donc, là-dessus, nous, on vous dit bonne semaine, M. Larivière.
Oui, à la semaine prochaine.
Et nos auditeurs, ben, ne bougez pas, on vous revient après ceci.
Simplement plein air, c'est de la balado. Simplement plein air, c'est de la radio. Et maintenant, simplement plein air, c'est de la vidéo. Et oui, profitez-en pour visiter notre canal YouTube Simplement plein air et abonnez-vous. Après tout, Simplement plein air, c'est pour vous.
Les balados diffusion Simplement plein air sont rendus possibles grâce à la participation des partenaires suivants.
C'est le temps de la chasse aux petits gibiers et aux oiseaux migrateurs. Vous rappelez-vous, tout jeune, nous partions avec le père à l'affût d'une perdrix ou encore d'un lièvre. Temps frisquet, pas très bien habillé, mais on chassait avec les grands. Aujourd'hui, c'est moi qui y vais avec ma famille. Mais cette fois-ci, ils sont confortables et bien habillés. Car peu importe la chasse, ça commence avec Pro Nature. Bon, v'là le souper! Pro Nature, le meilleur endroit pour les chasseurs.
Les leaders pour les produits de saline, urine, leurre et autres accessoires, les excellents produits Buck Hunter. Venez visiter notre tout nouveau site au www.buck-hunter.ca. Vous verrez les résultats à utiliser nos produits.
On s'imagine pas qu'il y a autant de familles qui mangent pas à leur faim au Québec. Cette année, j'ai décidé de donner de la viande de gibier pour venir en aide à des familles de ma région. C'est pas compliqué. Je dis à mon boucher la quantité que je veux donner et un organisme passe pour aller distribuer la viande aux familles dans le besoin. Chasseurs, soyez donc généreux.
Que ce soit pour vos animaux de compagnie ou vos animaux de ferme, la compétence porte un nom. Monsieur Bouffe, 25 Avenue Chaudière à Rouyn-Noranda, au 819-797-2564, point à la ligne.
Au chalet comme à la maison, verrouille ton arme. En cas de doute sur la façon d'entreposer ou de transporter ton arme, opte toujours pour l'option la plus sécuritaire. En collaboration avec l'Association québécoise de prévention du suicide, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs rappelle aux propriétaires d'armes à feu qu'une arme bien verrouillée peut éviter des drames.
Tu trouveras tous les règlements présentés de façon visuelle et simple sur sécurité-arme-à-feu.com.
Verrouille ton arme.
Pour transporter votre arme de façon sécuritaire, librement et parfaitement ajustée pour aller par-dessus vos vêtements de chasse, La Courroie Élite. www.cgelite.ca ou info@cgelite.ca.
C'est ainsi que se termine une autre bonne balado de Simplement plein air. Mais ne vous en faites pas, nous serons de retour tous les lundis, mercredis et vendredis pour le plaisir de vos oreilles. Car après tout, les balados diffusion Simplement plein air, c'est une passion.